Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous permettre de découvrir une parution récente, Eurogouvernance et Euromanagement, paru chez ESCA, un ouvrage de 187 pages pour 30 euros, pour un duo d'auteurs, Yves Doutriot et Jean-Jacques Puchart. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver sur cette antenne. Monsieur le professeur Puchart, vous êtes un habitué. On vous a déjà vu sous d'autres couleurs et d'autres publications. Et monsieur Doutriot, donc très heureux de
venir à Canal Académie.
Très heureux de vous accueillir.
Merci.
Alors, avant de rentrer dans ce sujet, je vais rapidement vous présenter et que vous compléterez éventuellement. Alors, Yves Doutriot, vous êtes conseiller d'État, professeur associé à Paris 1. Vous avez eu un certain nombre de responsabilités, notamment de la représentation de la France auprès des communautés européennes entre 88 et 92. Et vous avez rédigé plusieurs ouvrages sur les institutions européennes. Quant à Jean-Jacques Puchart, vous êtes professeur des universités, responsable du MBA de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez exercé dans une autre vie des fonctions de direction dans un grand groupe pétrolier européen. Et vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages et d'une cinquantaine d'articles sur les problématiques économiques et contemporaines. Et vous êtes un membre éminent de l'animation du Prix et du Cercle Turgot. Voilà, messieurs, donc très heureux de vous recevoir. Alors, les mutations de l'Europe qui, depuis 1957, s'est élargie pour atteindre 27 membres ont-elles des effets significatifs sur les évolutions du management et de la gouvernance des 30 millions d'entreprises de cet espace démocratique de 500 millions d'habitants ? Première question. Alors, l'intuition et le bon sens plaident pour répondre par l'affirmative. Encore fallait-il s'en convaincre. Et c'est à cette noble tâche que vous êtes attelé dans cette parution. Alors, vous êtes partagé à l'approche, à, on va dire, une approche plus juridique, plus institutionnelle pour vous, donc Yves Doutriot, et une approche, on va dire, économico-sociale pour vous, monsieur le professeur Jean-Jacques Puchart. Donc, on va peut-être commencer par vous, le côté, on va dire, institution européenne, historique. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu rapporter comme thèse sur ce sujet de l'évolution des institutions, de cette addition de différentes strates au fil des années qui ont construit l'Europe ?
Alors, il y a d'abord une perspective historique. Cette construction européenne, bon, tout le monde se souvient évidemment du rôle moteur joué par Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer. Au début des années 50, il fallait à cette époque-là reconstruire l'Europe qui avait été détruite par cet horrible conflit mondial. Et il fallait surtout réconcilier les anciens belligérants, à commencer par la France et l'Allemagne. Donc c'est de là qu'est partie, après la Deuxième Guerre mondiale, la construction européenne. On a commencé par le charbon et l'acier pour créer des solidarités de fait. Comme disait Jean Monnet, pourquoi le charbon et l'acier ? Parce que, évidemment, à l'époque, le charbon, c'était le premier mode d'énergie. Et pourquoi l'acier ? Parce que c'est à la fois une industrie fondamentale, structurante de l'après-guerre, mais c'est aussi avec l'acier qu'on fait des canons et qu'on fait, malheureusement, les guerres. Et donc, à partir de cette solidarité de fait, dans ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne du charbon et de l'acier, s'est développé tout au long des années 60, 70, 80, ce qu'on appelle aujourd'hui les institutions européennes. Alors, nous avons atteint une toute ultime phase, encore que le caractère ultime puisse être sujet à caution, c'est le traité de Lisbonne. Ce traité de Lisbonne qui vient d'entrer en vigueur, en réalité au début de cette année 2010, et cette entrée en vigueur du traité de Lisbonne intervient dans un contexte complètement et radicalement bouleversé par rapport à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes dans le fameux monde global, comme disent les anglo-saxons. L'Europe, qui était restée pendant des siècles, en tout cas depuis la Révolution industrielle, centre de gravité du monde sur le plan politique et économique, eh bien, l'Europe, aujourd'hui, donne l'impression d'être quelque peu marginalisée au profit de ce dialogue Chine-Amérique, entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Alors, la grande question qui se pose, c'est est-ce que ce traité de Lisbonne, qui rénove et renforce nos institutions, est-ce qu'il est à la mesure de l'enjeu formidable auquel l'Europe et les Européens sont aujourd'hui confrontés?
Alors, est-ce que c'est un aboutissement ou est-ce que c'est une étape? Alors, l'impression que l'on a, lorsqu'on n'est pas un grand spécialiste de ce sujet, c'est de se dire, mais il semble manquer un pilote dans l'avion. On est maintenant à 27. Qui dirige réellement parmi toutes ces institutions? Et est-ce qu'on peut dire qu'il commence à émerger une Europe politique ou non?
Écoutez, le but de l'Europe politique, nous, les Français, nous y sommes très attachés. L'Europe politique, c'est-à-dire la possibilité pour l'Europe de jouer un rôle dans les affaires du monde, un rôle en matière de solution des conflits, un rôle en matière de normes juridiques, un rôle aussi en matière de sécurité, voire même de défense. Tout ceci figure dans les traités, et notamment le traité de Lisbonne, qui est une sorte de point d'aboutissement. On ne peut pas parler de point d'aboutissement. Oui. La construction européenne est constituée de strates.
Elle continuera.
Et elle va continuer. Simplement, vous avez tout à fait raison de poser la question du pilote dans l'avion. Certes, le traité de Lisbonne maintenant établit un président permanent du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, ce qu'on appelle le Conseil européen, alors qu'auparavant, ça a changé tous les 6 mois. Certes, le traité de Lisbonne établit une sorte de ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne qui est à la fois une émanation du Conseil européen et aussi de la Commission européenne, de manière à avoir une bonne synthèse, une bonne visibilité extérieure dans le monde de l'Union européenne. Mais en même temps, force est de constater, et ça ne peut pas être écrit dans les traités, c'est que les États-nations souhaitent continuer à jouer un rôle spécifique, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et bien sûr tous les autres, ce qui est naturel et normal. Mais la vraie question est de savoir comment faire en sorte que ces États-nations jouent moins souvent, j'allais dire, en solo, mais plus souvent agissent ensemble pour conforter ces institutions, ce président du Conseil européen, le président de la Commission, cette ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. C'est ça la vraie question. Et ce n'est pas une question institutionnelle, c'est en réalité une question politique. Tant que l'Union européenne sera vue dans certains États comme une sorte de bouc émissaire, quand les choses marchent difficilement, et évidemment la crise économique et sociale que nous connaissons aujourd'hui prouve que l'Europe rencontre un certain nombre de difficultés, trop souvent les États-nations, les gouvernants nationaux, ont tendance à dire « c'est à cause de l'Europe ». Alors, il ne faut pas non plus s'étonner qu'à ce moment-là, les opinions publiques, on l'a vu, le référendum en France de 2005, le référendum aux Pays-Bas, le référendum en Irlande, un peu plus tôt au Danemark, montrent que les opinions ont beaucoup de mal à adhérer à l'Union européenne. Mais les responsables nationaux joue parfois un rôle un peu dangereux. On ne peut pas considérer que l'Union européenne est une sorte de bouc émissaire quand les choses vont mal, alors qu'au contraire, il faudrait tous ensemble conforter cette union pour que, ensemble, les 500 millions de citoyens européens et les gouvernants européens et les institutions européennes jouent un rôle à la mesure de ce qu'est l'Europe dans les affaires du monde.
Alors l'Europe, on va en venir à Jean-Jacques Puchart, je continue avec vous. L'Europe constitue un espace de paix, c'est certainement un de ses grands acquis, qui a beaucoup progressé au plan démographique, mais essentiellement par l'extension, on va dire, des adhésions, qui par contre est un espace qui, d'un point de vue économique, reste un petit peu poussif. La croissance est faible, etc. Par rapport notamment à ses grands concurrents, vous le disiez tout à l'heure, la Chine, l'Amérique, les pays émergents ou émergés. Donc, quels sont, sur ce plan, les atouts de l'Europe?
Moi, je suis très europhile. Je suis persuadé que l'Europe a des atouts considérables. Malheureusement, elle ne sait pas toujours jouer de ses atouts. Le premier atout, c'est évidemment, comme vous l'avez dit, un espace de paix. Ce n'est pas la situation dans beaucoup de zones du monde. Et vous avez parlé de la Chine et de l'Inde, évidemment, ces deux pays ne s'entendent pas très bien. Quand on regarde l'environnement immédiat de la Chine, vous avez le problème coréen, vous avez une rivalité avec le Japon. Donc, un peu partout dans le monde, si on compare la situation en Europe, c'est véritablement un espace de paix, un espace de réconciliation. Mais en même temps, ces atouts considérables, un relatif quand même consensus social, en dépit de tout ce qu'on peut constater tous les jours. La situation sociale moyenne dans l'Europe est beaucoup plus homogène que si on regarde l'Inde avec le système des castes, sans parler de la Chine, où vous avez des centaines de millions de paysans qu'on appelle à faire travailler dans les grandes villes et qui n'ont pas l'autorisation de rester dans les grandes villes.
La favelle politique du houkou.
Voilà, exactement. Donc, en Europe, on a des atouts absolument considérables, mais malheureusement, nous ne savons pas toujours les jouer, précisément parce que nous jouons trop souvent en solitaire. On l'a bien vu à Copenhague. Quand il s'agissait de parler de lutte contre le réchauffement climatique, c'est largement l'Europe qui a mis ce sujet sur la table. Et pour autant, on a constaté que les Européens avaient l'air d'être en dehors de la salle des compromis à la fin, où c'était plutôt les États-Unis, le président des États-Unis, le premier ministre de la Chine, avec quelques autres. Et je crois que le président Obama, dans un discours à la fin, relevant la contribution de tel ou tel État au compromis final, même omis de citer l'Union européenne. Donc cet exemple de Copenhague montre qu'il faut un sursaut européen et la balle est d'abord et avant tout dans le camp des Européens.
On vient de voir, de comprendre qu'il y a donc parmi les États une grande hétérogénéité et que s'il y a une euro-gouvernance, elle se construit à petits pas, puisqu'il manque un pilote dans l'avion. Alors, Jean-Jacques Puchard, de votre côté, vous soulignez dans la partie que vous traitez, donc la deuxième partie du chapitre, qu'il y a des euro-entreprises. C'est certain, il y a probablement un euro-management, vous allez y revenir, mais que là aussi, c'est une très grande diversité. Alors, vous distinguez six formes de capitalisme qui peut-être donnent une vision.
Effectivement, c'est un thème qui a été très développé dans les années 60 à 80. Il y a eu beaucoup d'ouvrages de toute nature, de toute origine, sur l'euro-entreprise, les euro-groupes, les euro-PME, l'euro-management. Et on constate au fur et à mesure des élargissements, l'ouverture aux pays anglo-saxons, puis aux pays d'Europe du Sud, puis aux pays d'Europe de l'Est, qu'il y a un brouillage de ce concept d'euro-entreprise. Ce brouillage, il est dû au fait qu'il y a en fait une cohabitation, une coexistence, voire une confrontation d'un certain nombre de modèles de management qui correspondent en fait aux différents modèles socio-économiques ou modèles de capitalisme, pour reprendre les termes des économistes géographiques d'aujourd'hui, qui en fait s'affrontent, et c'est des enjeux justement de la politique européenne. C'est une des grandes missions des institutions européennes que de s'efforcer d'harmoniser ces différents systèmes et ces différents modèles. Alors quand on lit les bons auteurs sur ces questions, on s'aperçoit qu'il y a en fait quatre grands systèmes qui permettent de structurer ce fameux espace socio-économique européen. Le plus important, c'est le grand système d'innovation et de production, puisque c'est grâce à l'innovation que se créent des entreprises et c'est l'optimisation des systèmes de production qui permettent d'améliorer la compétitivité des entreprises, donc de créer indirectement des emplois. Il y a le système de concurrence auquel les autorités européennes ont toujours été très attachées depuis le traité de Rome. Il n'y a pas d'innovation sans rivalité entre les entreprises et sans concurrence bien encadrée par l'ensemble des institutions européennes et des États-nations. Il y a les systèmes monétaires, financiers et au-delà de gouvernance, comptable, qui sont importants. Et enfin, les systèmes socio-éducatifs. Et on s'aperçoit que d'un modèle de capitalisme à l'autre, et donc d'un modèle de management à l'autre, ces systèmes ne sont pas encadrés, ne sont pas structurés, ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière. Ils ont des priorités selon les modèles qui sont différentes. On distingue traditionnellement 5 ou 6 modèles au niveau mondial, dont 4 dominants au sein de l'Union européenne. C'est bien sûr le modèle anglo-saxon, dit néolibéral, auquel correspond le modèle managérial anglo-saxon, qui est très largement dominant partout dans le monde. On y trouve bien sûr le Royaume-Uni, bien sûr l'Irlande, mais aussi des pays de l'Europe de l'Est, des économies en transition, qui ont adopté un peu précipitamment parfois d'ailleurs ce modèle anglo-saxon. On trouve également le modèle social de marché de la Mitteleuropa, c'est le fameux modèle rhénan. On y trouve le modèle social-démocrate scandinave, qui d'ailleurs, au cours des années 80, souvenons-nous des années Mitterrand, était un des modèles français, une ligne de mire de la politique économique française. Et puis, un modèle que l'on ne sait pas trop encore qualifier, qu'on appelle encore un peu administré, on ne dira pas néo-colbertiste, auquel certains pays d'Europe, notamment du Sud, sont encore attachés. La France naviguant entre, au moins pour ses grands groupes, le modèle anglo-saxon, et pour toutes les autres entreprises, y compris les PME, entre ce modèle anglo-saxon et le modèle administré. Donc, selon les modèles de capitalisme et donc de management, les systèmes ont des priorités différentes. Dans le modèle anglo-saxon, je ne prends qu'un exemple pour ne pas être trop long, bien sûr, c'est le système monétaire, financier qui est dominant, c'est le système concurrentiel qui est dominant. Dans le domaine, en revanche, rhénan, qui avait été d'ailleurs bien mis en lumière par Michel Albert il y a une trentaine d'années, c'est le système d'innovation et de production. Donc, il y a toute une hiérarchie entre ces grands systèmes qui, en définitive, permettent de qualifier ces modèles. Donc, il y a certes une relative convergence entre le modèle anglo-saxon et le modèle rhénan, le modèle social de marché, mais cette convergence n'est pas si évidente que cela dans la mesure où la crise, notamment de 2008, a montré les limites du modèle anglo-saxon hyper concurrentiel de marché. Donc, on s'achemine vers une sorte de synthèse entre un modèle anglo-saxon qui perdurera, bien évidemment, un modèle social de marché et peut-être aussi un modèle social-démocrate si l'Europe sociale, enfin, se construit, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. On vient de le constater par les événements que nous vivons encore, d'ailleurs, aujourd'hui.
Oui, récemment. Donc, Yves Audotriau, justement, est-ce que les institutions et leur évolution favorise cette convergence vers donc, on va dire, un modèle européen à la fois de gouvernance, de management.
Dans les institutions, il y a tout l'atout, tout l'acquis du grand marché unique, et notamment l'acte unique de 1985 qui a amené l'Union européenne par des directives à rapprocher les législations de manière à ce que, effectivement, se crée un grand marché unique dans lequel les euro-entreprises pourraient, évidemment, non seulement librement exporter ou importer dans le grand marché intérieur, mais que dans ce grand marché intérieur, il y aurait aussi la libre circulation des capitaux, des prestations de services, mais aussi des travailleurs. Donc, l'un des objectifs, j'allais dire, centraux de l'Union européenne, c'est évidemment bénéficier des économies d'échelle et de faire en sorte que nos entreprises soient mieux placées dans la compétition mondiale, dès lors que d'emblée, elles ont à leur disposition, sans aucune contrainte, et il y a encore beaucoup de travail à faire, un gigantesque marché de 500 millions de citoyens, marché qui est quand même un marché très solvable, j'allais dire. Si on compare le produit intérieur brut par habitant dans l'Union européenne par rapport au produit intérieur brut par habitant en Inde ou en Chine, en dépit de la croissance forte que connaissent et l'Inde et la Chine, c'est bien l'Union européenne qui est solvable. Alors, la difficulté dans ce grand marché, c'est que c'est aussi un marché, j'allais dire, qui vieillit, où les habitudes de consommation et d'épargne évoluent. Et c'est toute la question démographique qui est aussi centrale et que je relierai avec la question de l'innovation.
Nos sociétés, c'est le risque d'aller vers un modèle à la japonaise.
Exactement. Nos sociétés tendent à vieillir, tendent à privilégier, j'allais dire, l'épargne plus que la consommation, tendent à privilégier des loisirs plutôt que l'innovation et la productivité, l'investissement. Et donc, c'est ça le grand défi de l'Europe. Mais je ne pense pas pour autant qu'à terme, il faut être excessivement pessimiste. Encore une fois, nous avons énormément d'atouts, de nouvelles formes de consommation, l'économie verte avec toute l'innovation qui va avec, les entreprises vertes. Et c'est encore une fois l'Europe qui doit continuer dans cette voie-là. En plus, j'ai parlé de niveau de vie par habitant. Malheureusement, il y a encore de grands écarts, même dans notre Europe relativement consensuelle. C'est évidemment tous les nouveaux membres qui nous ont rejoints d'Europe de l'Est. La situation en Roumanie, en Bulgarie, il y a encore énormément d'écarts à réduire. Et puis enfin, il y a la question des élargissements. Personne n'a écrit dans le traité de Lisbonne que l'Europe s'arrêtait à 27 États. Il y a un certain nombre d'autres États qui sont quand même très mal lotis sur le plan économique et social, dans les Balkans, qui ont vocation à entrer dans l'Union européenne. Alors très prochainement, je crois, la Croatie, mais au-delà, la Serbie. Peut-être un jour, quand tous les pays l'auront reconnu, le Kosovo. Il y a aussi l'Albanie, il y a aussi la Bosnie-Herzégovine, qui pose aussi d'autres difficultés, la Macédoine. Et puis, bon, il y a le cas un peu particulier de l'Islande, qui s'est réveillé pendant la crise financière.
Quand en même temps pays, que le volcan.
Et même avant, d'ailleurs. Mais encore faut-il que la population islandaise, qui a 500 000 habitants, donc qui ne serait pas trop difficile à absorber, si je peux m'exprimer ainsi, confirme sa volonté d'être intégrée dans l'Union européenne. Mais alors, vous avez après deux grands pays, sur lesquels il n'y a aujourd'hui pas vraiment de consensus. L'un, l'Ukraine, de 55 millions d'habitants, et puis la Turquie. La Turquie, nous avons...
Ça pose un problème culturel aussi.
Officiellement, nous avons ouvert des négociations avec la Turquie à la fin des années 90. Nous avons reconnu, quand je dis nous, c'est 27 d'aujourd'hui, la vocation européenne de la Turquie. Or, on constate qu'un certain nombre d'opinions publiques en France, en Autriche, en Allemagne, dans d'autres pays, sont, pour des raisons culturelles, mais pas seulement, réticents par rapport à l'entrée de la Turquie. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est qu'il y a un mouvement croissant en Turquie qui va dans le sens de l'affirmation de l'émergence de la Turquie, au même rang que la Chine ou l'Inde, et que certaines parties de l'élite turque se demandent si cette vieille Europe, qui finalement a tendance à leur fermer la porte, est-ce que c'est véritablement une opportunité pour la Turquie ? Et moi, je réponds, il me semble que si on a une vision d'avenir, de développement de l'Union européenne, les 80 millions de Turcs, ce grand marché, ces entreprises dynamiques, ça pourrait aussi être un atout pour l'Union européenne. Mais évidemment, là, je me place sur une perspective, j'allais dire,
une vision d'avenir.
De long terme.
D'accord. Une perspective de long terme.
Alors... Sur cette question des priorités, si je puis me permettre de rajouter quelques mots. Au plan purement économique, je crois que ça a été une priorité constante des autorités européennes que de créer un grand espace économique qui soit relativement unifié, harmonisé, un environnement qui soit au plan monétaire et financier le plus stable possible. Mais je perçois, en tant qu'économiste, une évolution de ces priorités et peut-être une accélération depuis la crise de 2008. C'est le fait de pouvoir favoriser, par tout type de mesures, la création d'entreprises et l'innovation au sein de l'Union. Il y a eu beaucoup d'initiatives au cours des dernières années en faveur des jeunes entreprises innovantes, en faveur de la création de pôles de compétitivité ou de clusters dans d'autres pays, on les appelle pôles en France, clusters ailleurs, en faveur de mise en place de structures d'accompagnement de tous ces créateurs. Il y a 3 700 000 entreprises qui se créent chaque année. Éviter également par l'accompagnement la disparition un peu précoce d'entreprises en Europe. Certains pays comme la France d'ailleurs, c'est un mal endémique pour elles que de voir 60 à 70 000 entreprises qui disparaissent corps et bien chaque année. Autre priorité qui, à mon avis, va s'affirmer de plus en plus au cours des années à venir, c'est favoriser la compétitivité des entreprises de toute taille. Pas uniquement des champions européens, mais également des PME petites, pour qu'elles deviennent plus exportatrices, qu'elles puissent pratiquer des investissements directs à l'étranger, en Europe ou hors Europe. Et là, il y a également aussi beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Enfin, et ça on l'a évoqué, c'est favoriser le développement durable et la responsabilisation sociale des entreprises européennes.
Donc l'Europe...
De ce point de vue-là, on peut dire que c'est un pôle... d'excellence.
C'est ça, un pôle d'excellence, un phare en quelque sorte.
Face à d'autres modèles managériaux, asiatiques ou purement américains.
Alors, dernière question, je continue avec vous, Jean-Jacques Puchart. Dans ce grand ensemble d'hétérogénéité des États, d'hétérogénéité des entreprises, des formes de capitalisme, néanmoins émerge un euro-management en tant que tel ? Enfin, en tout cas, des lignes de force d'euro-management ?
Oui, on peut dire tout de même que, et peut-être en définitive, c'est prématuré de le dire, mais la crise de 2008 aura permis de dégager un certain nombre de lignes de force, montrer, donc, comme je le disais tout à l'heure, les limites du modèle anglo-saxon purement libéral, hyper-concurrentiel, montrer aussi certaines limites des modèles purement administrés, où il y a peut-être parfois un excès de régulation de la part des États ou des collectivités locales. On s'acheminerait vers un modèle plus équilibré, je dirais presque euro-centré, dans lequel on rechercherait une sorte de synthèse entre tous les atouts dont doivent disposer les entreprises pour pouvoir exploiter au mieux et déployer au mieux les 4 grands systèmes que j'évoquais tout à l'heure, système d'innovation et de production, système concurrentiel, là c'est déjà très avancé, système financier et comptable. Les institutions européennes sont dépassées par des institutions internationales. L'Europe n'a pas son entier libre arbitre. Et enfin, surtout, et c'est là qu'il y a des progrès sont à faire, je crois que l'incertitude est là pour essayer de cerner quel sera demain le modèle d'euro-management au niveau des systèmes socio-éducatifs. C'est au niveau de l'Europe sociale qu'il me semble qu'il y a encore de très grands progrès à faire.
Oui, d'accord. Alors, je crois qu'on a fait à peu près le tour, mais je ne pourrais pas terminer cet entretien sans vous poser une question un peu insidieuse. Est-ce que l'euro n'est pas le plus grand ennemi de cette euro-gouvernance et cette euro-management.
L'euro, la monnaie unique européenne. Ouais. Moi, je pense que non. Alors, il est vrai qu'avec le traité de Maastricht, puisque c'est ce traité de 1992 qui a ancré ce qu'on appelait à l'époque l'écu et aujourd'hui l'euro, il est vrai que c'est un engagement qui était maintenant mis en œuvre, qui était un vrai pari, puisqu'on avait décidé d'avoir une monnaie unique, en tout cas pour les 16 pays qui aujourd'hui en font partie, une banque centrale européenne commune à Francfort, une politique monétaire commune, alors même qu'il y a des écarts importants en termes de productivité, de développement économique. Et la crise grecque du début de cette année a bien montré combien les assises même de l'euro étaient mises en cause quand il y avait une trop grande divergence dans les évolutions économiques entre certains pays et d'autres. Mais pour autant, ce qu'on a constaté, c'est que cette crise de l'euro, les Européens, notamment les pays membres de l'euro, ont sans doute tardé excessivement pour y réagir, mais ils ont finalement réagi.
Oui. Donc vous retenez le côté bouteille à moitié pleine plutôt.
Il aurait mieux valu de réagir dans les quelques jours, mais on a mis quelques semaines, voire quelques mois. Et donc l'euro a connu une grave crise. Mais grâce, si je peux m'exprimer ainsi, à cette grave crise, comme toujours dans l'Europe, on a finalement eu un sursaut et on a mis en place des mécanismes de facilité financière de manière à corriger les éventuels déséquilibres. Et vous avez même vu qu'il y a quelques jours à Deauville, le président de la République et la chancelière allemande se sont mis d'accord pour envisager également une politique plus ferme en matière de lutte contre les déficits budgétaires excessifs, qui serait même accompagnée par des mécanismes de sanctions. Pour ça, pour l'instant, c'est sur la table. Il va falloir discuter de tout cela, évidemment, avec les autres partenaires. Mais ceci prouve que, confronté à une forte crise, les leaders européens sont heureusement capables de sursauts, même si, à l'origine, ils sont rarement d'accord, je veux dire au début de la crise. On insiste toujours sur le fameux tandem ou la locomotive franco-allemande. En réalité, depuis le début des années 60, spontanément, pour des raisons culturelles, pour des raisons peut-être aussi économiques, hein, puisque nos modèles sont un peu différents, le modèle rhénan, le modèle colbertiste ou post-colbertiste, on a très souvent, par rapport aux difficultés auxquelles l'Union européenne est confrontée, des réflexes différents. Et à chaque fois, il faut surmonter ces différences par le haut, je dirais. Et c'est comme ça que De Gaulle, Adenauer, et puis après, vous avez eu Giscard, Schmitt, puis vous avez eu Mitterrand, Kohl. Et aujourd'hui, vous avez donc ce couple franco-allemand qui, confronté à la crise de l'euro, se querelle et finalement dépasse cette querelle pour proposer à tous ses partenaires d'aller plus loin. Alors, mon espoir, c'est qu'on continuera à le faire. Une simple remarque, dans l'Europe à 27, c'est plus compliqué que dans l'Europe à 6. La locomotive franco-allemande, c'est une condition qui est toujours nécessaire, mais qui n'est sans doute plus suffisante. Et nous devons travailler beaucoup plus, évidemment avec le Royaume-Uni, avec l'Espagne, l'Italie, et aussi avec tous les partenaires, finalement. Et à l'Est, évidemment, la Pologne et l'ensemble des nouveaux partenaires. Il faut que cesse cette idée qu'il y a une vieille Europe, une nouvelle Europe. C'est une idée d'ailleurs américaine. Ouais. Maintenant, nous travaillons tous ensemble. Et alors, une dernière remarque qui est quand même importante. On se plaint beaucoup maintenant que les États-Unis se désintéressent de l'Europe, que le président Obama est plus tourné vers la Chine, comme on le disait tout à l'heure, que vers l'Europe. Mais finalement, c'est une chance, parce que ça veut dire que les Européens, maintenant, c'est à eux de faire le travail d'une manière coordonnée. Et on constate qu'aujourd'hui, les Polonais ou les Tchèques, qui étaient quand même plus pro-américains,
atlantistes
que pro-européens, maintenant sont prêts à prendre des initiatives, y compris dans la sphère diplomatique et même de défense. La Pologne veut renforcer la défense européenne avec l'Allemagne. Et vous voyez, donc il y a le champ libre pour énormément de nouvelles initiatives, à condition que les politiques le souhaitent.
Donc un message d'optimisme de la part d'Yves Doutriot et un autre message peut-être
oui,
en restant...
Moi j'ajouterais simplement, après ces propos que je partage totalement, que d'une certaine manière, la crise de 2008 aurait été bénéfique à l'euro parce que l'euro, c'était un peu, enfin c'est ma conception qui n'engage que moi, c'était un peu un Deutschmark européen appliqué dans l'ensemble de la zone des 13 membres de l'euro et qui était essentiellement tourné vers la lutte contre l'inflation. Et on le comprend puisque les Allemands ont été traumatisés dans les années 30 par la chute vertigineuse du cours du Deutschmark. Et d'une certaine manière, on a vécu depuis la crise, non pas un renversement, mais une inflexion de la stratégie de la Banque Centrale Européenne, qui, sans pratiquer d'évaluation compétitive bien évidemment, mais a laissé filer un peu l'euro et donc a donné un peu d'oxygène aux industries exportatrices européennes, qui étaient parfois handicapées par un euro trop fort, face notamment au dollar et au yuan qui est accroché, comme chacun sait, au dollar. Donc cette crise aura aussi permis de multiplier les fonctions de l'euro qui n'est pas entièrement dédié à la lutte contre l'inflation, qui n'est plus un réel danger, du moins à court terme aujourd'hui en Europe, mais également d'être un instrument monétaire au service du développement
et de la
économique
croissance.
Et de la croissance.
Voilà. Alors, dernier mot, mais là, on ne va pas développer parce qu'il faut qu'on arrive au bout de notre entretien. Autre mot d'optimisme, vous parlez, Jean-Jacques, d'un management européen des ressources humaines. Je crois qu'il faut signaler au passage que la France, sur ce point, est très bien placée, puisqu'il y a une école de ressources humaines très performante et pertinente à travers le CIFOP qui est dirigé par notre ami le professeur Franck Bournois et que vous citez d'ailleurs dans votre ouvrage pour les modèles de capitalisme ou de management.
Oui, entre autres. Il y a effectivement plusieurs formations d'excellence à la gestion des ressources humaines, notamment à la gestion internationale des ressources humaines. Là, on peut dire que dans ce domaine, l'université, les écoles françaises constituent, ce n'est pas le cas dans tous les domaines, peut-être
bien sûr,
dans la finance,
mais sur le plan des ressources humaines.
Mais en matière de gestion des ressources humaines, nous sommes parfois souvent des pionniers et en tous les cas un phare pour un certain nombre de formateurs et de managers eux-mêmes d'ailleurs des entreprises partout dans le monde.
Voilà, donc optimisme pour la France, optimisme pour l'Europe, dans la difficulté et l'effort. Vous trouverez dans cet ouvrage qui vient de paraître donc aux éditions ESCA, Euro-gouvernance et Euro-management par le professeur Jean-Jacques Puchart et Yves Doutriot, des compléments de réponse. Et nous invitons nos auditeurs à se procurer très rapidement cet ouvrage. Merci à vous messieurs pour cet entretien qui était extrêmement agréable.
Merci
beaucoup. Monsieur Jean.
Thank you.